Bon pied, bon œil, Gina a 85 ans et assume les années qui passent avec une bonne humeur admirable. Impossible de ne pas se dire à un moment ou un autre de notre lecture, pourvu que je vieillisse comme Gina. À Paris, la vieille dame vit une existence modeste, de prime abord assez monotone. Mais prenons garde de ne pas porter de jugement trop vite. La mort de son fils unique, Alain, 4 ans auparavant, a été le grand drame, récent devrais-je préciser, de sa vie. Mais depuis que sa petite fille, Chloé, 24 ans, s'est installée chez elle, la vie est plus douce, même si sa toute petite, qu'elle câline et dorlote, ne va pas très bien. Pour Chloé, sa grand-mère adorée est l'archétype de la mamma italienne, chaleureuse et bonne vivante. Elle est la seule personne qui lui reste de sa famille. Gina, quant à elle, passe beaucoup de temps avec son amie Olga, qui vit l'étage au-dessus. Tirée à quatre épingles, pointue en matière de mode, les avis d'Olga sont tranchés et son côté donneuse de leçons déplaît fortement à Chloé, qui ne comprend pas ce que sa grand-mère lui trouve. Gina est dans l'attente depuis 20 ans. La prédiction de Salomé la voyante tarde à se réaliser. Elle a hâte pourtant. En tout cas, pour ce qui concerne la bonne nouvelle. Car il y en avait une bonne et une mauvaise. Gina avait prédit la boule de cristal de Salomé, aurait une grosse rentrée d'argent quand elle serait vieille. Et la mort viendrait frapper à sa porte peu de temps après. Je n'ai bien sûr pas besoin de vous préciser quelle est la bonne nouvelle et la mauvaise. Alors, depuis 2 décennies, le dernier jour du mois, Gina prend le train pour Enghien-les-Bains et joue une modique somme sur une machine à sous, toujours la même, une ancienne, une aboyeuse à rouleau mécanique avec un bras à actionner. Mais un matin, Gina déroge à ses petites habitudes et change de machine, juste avant de quitter le casino. Bingo ! Elle remporte le jackpot. 1 150 000 euros et 95 centimes. Mais que fait-on à 85 ans d'une telle somme quand on est une bonne âme comme Gina, que les envies se limitent à une nouvelle robe, un nouveau parfum et un petit voyage? Le mieux est peut-être de dérouler le fil de votre vie et de remercier, moyennant une somme non négligeable, ceux qui ont croisé votre route pour en changer le cours. Gina, qui est en fait la reine des cachotières, décide de fuguer pour retourner sur les traces de son passé. Mais c'est sans compter sur Chloé et Olga, qui s'inquiètent pour elle et partent à sa recherche. De Aigues-Mortes à New York et la Floride en passant par Nice, les rencontres sont riches en émotions et les rebondissements nombreux. Merci, grazie, thank you, de Julien Sandrel est sorti en 2022. Son public était au rendez-vous, tout comme pour ses précédents romans, La Chambre des Merveilles, La Vie qui m'attendait, Les Étincelles et Vers le Soleil. Aujourd'hui, Merci, grazie, thank you sort en livre de poche. Bonjour Julien Sandrel et bienvenue à Secret d'écriture. Revenons quelques instants sur La Chambre des Merveilles, qui a connu un immense succès en librairie lors de sa publication en 2018 aux éditions Kalman-Lévy. Il a été adapté au cinéma, au théâtre et il existe même une BD, je crois.
Oui.
Racontez-nous cette belle aventure.
Ah ben, l'aventure de La Chambre des Merveilles, c'est vraiment une aventure assez dingue, assez surréaliste. En fait, c'est le mot, je pense, que j'ai le plus prononcé depuis 2018, tout ce qui s'est passé autour de La Chambre des Merveilles, parce que déjà, le succès du livre a commencé avant même sa sortie, puisqu'il a été traduit dans pas mal de langues avant même de sortir en France, acheté par le cinéma. Et puis tout ça s'est concrétisé très récemment avec effectivement une adaptation au théâtre qui se joue en ce moment au Théâtre des Variétés à Paris, adapté par Jean-Philippe Daguerre, et une adaptation au cinéma, effectivement, qui vient tout juste de sortir en salle, réalisée par Lisa Asuelos et avec Alexandra Lamy et Muriel Robin dans les rôles principaux. Alors moi, je dois dire que il y a une histoire dans l'histoire, parce que dans La Chambre des Merveilles, je raconte l'histoire d'une maman qui, à cause ou grâce à l'accident de son fils, est forcée de remettre sa vie en question et de réinventer sa vie d'une certaine façon. Donc il y a vraiment un avant et un après l'accident de son fils pour elle. Et en fait, dans ma vie personnelle, il y a un avant et un après La Chambre des Merveilles, puisque avant La Chambre des Merveilles, j'étais salarié dans une entreprise depuis 15 ans. Donc je travaillais comme tout le monde, on va dire. Et puis le succès de La Chambre des Merveilles a fait que j'ai pu complètement basculer et revenir finalement à ce qui constituait mon rêve d'enfant, puisque moi, quand j'étais enfant, quand on me posait la question « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?», je répondais « écrivain ou metteur en scène ». Et après, j'ai pas du tout fait ça, j'ai fait des études scientifiques et donc une carrière en entreprise. Et la Chambre des Merveilles m'a permis d'une certaine façon de réinventer ma vie. Et aujourd'hui, je vis uniquement de l'écriture et j'en suis absolument très heureux.
Et peut-être qu'un jour, vous ferez de la mise en scène aussi.
Alors peut-être, ça, l'avenir nous le dira. Donc déjà, j'écris, c'est déjà une première étape, c'est très très bien.
Alors vos romans ont un point commun, celui de mettre en scène des femmes qui changent de vie, vous venez d'en parler d'ailleurs, pour lesquelles il y a un avant et un après, n'est-ce pas ?
Exactement. Alors pas uniquement des femmes, puisque j'ai quand même des personnages masculins. En général, j'ai, alors à part dans Merci, Gratier, Thank You, effectivement, qui est une exception, parce que les narrateurs sont uniquement des narratrices, mais dans la plupart de mes romans, j'ai plusieurs narrateurs, et j'ai souvent un narrateur masculin. Parfois, c'est même le héros. Donc dans Vers le soleil, par exemple, c'est un héros masculin. Et en fait, on m'a souvent posé la question pourquoi des héroïnes et pourquoi pas des héros. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs réponses à y apporter. La première, c'est que je suis profondément féministe et donc j'aime bien, moi, mettre en avant des problématiques liées à la situation des femmes, en tout cas en France ou même là dans Merci, Gratier, Thank You, à différentes époques et même par-delà les frontières. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je pense que je suis totalement incapable de parler de moi. Et donc, je parle beaucoup de moi dans mes romans, évidemment, mais j'ai vraiment besoin de cette mise à distance et du filtre de la fiction et vraiment de créer des personnages qui sont, on va dire, le plus éloignés possible de moi pour pouvoir exprimer mes propres émotions à travers eux. Et étant donné que je suis un homme, bah, peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai tendance à prendre des personnages plutôt féminins.
Oui, et d'ailleurs, votre facilité à vous représenter la maternité quand celle-ci est fragile, qu'elle fait défaut, est, je trouve, assez bluffante. Je pense à des thèmes forts que vous abordez, comme le déni de grossesse ou le manque d'amour que l'on peut éprouver à la naissance de son enfant. D'où vous vient cette facilité ?
Alors, je ne saurais pas dire exactement d'où ça vient. Je pense que j'ai, depuis que je suis tout petit, de toute façon, une forme d'hypersensibilité qui est probablement me rend un peu perméable à toutes sortes d'émotions. Après, moi, je n'ai pas le sentiment, même si les thématiques que j'aborde sont liées au fait d'être une femme, quand on parle de déni de grossesse, évidemment, un homme ne peut pas être en déni de grossesse. Mais la manière dont j'aborde ces sujets-là, pour moi, sont des... À travers un prisme et des sentiments humains. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression, moi, d'écrire des personnages féminins, j'ai juste l'impression d'écrire des personnages qui sont humains et qui ont certaines caractéristiques psychologiques. Je pense qu'un homme pourrait très bien réagir et avoir le même genre d'action que Gina dans Merci, Gratier, Thank You, comme une femme pourrait ne pas du tout réagir de la même façon. Donc moi, je crée des personnages qui sont des humains et bah, il se trouve qu'ils ont un genre, mais c'est pas forcément... une problématique, je me dis pas tiens je vais me mettre vraiment dans la tête d'une femme, je me mets dans la peau d'un être humain.
Oui, mais par exemple le déni de grossesse, vous avez lu au préalable sur ce sujet-là ?
Oui, bien sûr.
Oui, d'accord.
Bien sûr, de toute façon dans l'ensemble de mes romans, toutes les problématiques de mes romans tournent beaucoup autour de l'amour à l'intérieur des familles, des problématiques de transmission intrafamiliale. Alors là, dans Merci, Gratier, Thank You, c'est, je pense, le roman dans lequel il y a le plus cette problématique de transmission. Et ensuite, quand j'évoque des sujets personnels, qu'ils soient médicaux ou qu'ils soient psychologiques, évidemment, je me documente beaucoup, à la fois en lisant ou en regardant des documentaires, des témoignages, ou en rencontrant des personnes. Donc là, c'est pas forcément le cas sur Merci, Gratier, Thank You, c'est plus le cas sur certains de mes romans. Là, c'était plus, effectivement, de la documentation au sens livre ou reportage, quoi.
Alors Gina, l'héroïne de Merci, Gratier, Thank You, est une sacrée bonne femme qui se dévoile peu à peu. Est-ce que quelqu'un vous a particulièrement inspiré pour écrire ce personnage ?
Alors oui, la réalité, c'est que dans Merci, Gratier, Thank You, même si tout est fictif, en réalité, ça parle énormément de ma famille, de ma propre famille. Moi, je suis d'origine italienne, mon grand-père était italien, et donc le terreau de création de ce roman, c'est vraiment mes origines italiennes et tout ce que m'a raconté mon grand-père sur sa vie à lui, sur la vie de mes arrière-grands-parents. Et donc, il y a un certain nombre d'événements liés à la vie de Gina dans le roman qui sont... intimement lié à des choses qui m'ont été racontées par ma famille. En fait, moi, j'ai eu envie d'écrire ce roman parce que j'avais envie de rendre hommage à mes anciens, à mes ancêtres, et notamment à mon grand-père. Et en fait, l'envie d'écrire ce roman est vraiment devenue très forte quand je suis allé à la Cité de l'Immigration à Paris et que j'ai vu une exposition qui était super, qui s'appelait Ciao Italia, et qui rendait hommage à 100 ans d'immigration italienne en France. Et le sous-titre de l'expo, je crois que c'était « Ces Italiens qui ont construit la France ». J'ai trouvé cette expo évidemment bouleversante, d'autant plus de par mon histoire personnelle. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai envie d'écrire sur un parcours d'une personne d'origine italienne à travers le siècle, le XXe siècle. Mais je ne voulais pas écrire un roman historique. Je voulais vraiment que ce soit un roman totalement contemporain. Et donc, cette expo, c'était en 2017. Donc, j'ai mis 4 ans avant de trouver un angle qui me permettait de raconter une histoire avec pas mal d'épisodes lié à l'histoire avec un grand H, mais qui soit totalement contemporaine.
Vous semblez très bien connaître New York. Est-ce que c'est une ville où vous avez passé beaucoup de temps ?
Alors, je connais bien New York. J'y suis pas allé énormément, mais je me souviens surtout de 15 jours complets que j'avais passé en vacances à New York avec ma femme en 2008. Et en fait, on s'était dit genre un jour, un quartier, quoi. Et donc, on avait bien exploré New York. Et dans mon voyage à New York en 2008, eh bien, il y a eu un passage qui a été très important et qui a été aussi un des détonateurs d'écriture de ce roman-là. Qui est mon passage sur Ellis Island. Ellis Island, qui donc est cette porte d'entrée de l'Amérique par laquelle transitaient tous les candidats à l'immigration, donc qui venaient la plupart du temps d'Europe et ensuite qui étaient acceptés ou pas pour rentrer sur le territoire américain. Et en fait, il se trouve que dans mon histoire personnelle, mes arrière-grands-parents ont émigré aux États-Unis en 1912. Ils sont passés par Ellis Island. Et ensuite, il n'aurait pas arrivé ce qui est arrivé à Gina, que je ne spoilerai pas. Mais ils sont rentrés sur le territoire américain, ils y ont vécu 1 an, et en fait, ils font partie de cette vague de migrants italiens qui ne se sont pas du tout adaptés à la culture américaine et qui sont revenus ensuite en Europe. Donc, ils sont restés une seule année. Pour la petite histoire, mon grand-père, qui était donc d'une famille, le dernier d'une famille de 9 enfants italiens, voilà, sa sœur est née à Brooklyn, en fait. Donc moi, quand je suis allé sur Ellis Island, j'y allais déjà pour visiter le lieu, parce qu'il y a le musée de l'immigration américaine qui se situe sur Ellis Island. Et puis j'y allais aussi pour trouver le nom de mes arrière-grands-parents dans les registres et voir la trace de leur passage. Et donc je l'ai trouvé, parce qu'à l'époque c'était numérisé, mais c'était pas encore accessible depuis la France. Il fallait vraiment se rendre sur place pour y avoir accès. Et donc j'ai trouvé leur nom avec toutes les traces de leur passage, avec marqué « illettré », etc. Enfin bon, donc c'était extrêmement émouvant pour moi. Et ça, c'est resté dans ma tête jusqu'à l'écriture de ce roman. Bon, ça l'est encore aujourd'hui, évidemment, mais j'avais vraiment, vraiment à cœur de rendre hommage au parcours de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents.
Vous semblez très attaché à la notion de famille. C'est quoi pour vous une famille ?
Alors, une famille, ça peut prendre des formes très variées. Je pense que, évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille unie, soudée, à laquelle se raccrocher. On peut avoir une famille qu'on choisit et qu'on construit dans le temps. Donc, on peut avoir une famille qui est constituée d'amis, une famille recomposée. Aujourd'hui, il y a énormément de familles qui sont recomposées. Mais moi, il se trouve que j'ai une famille qui est justement assez unie, assez soudée. Et les valeurs familiales, peut-être donc les origines italiennes, hein, sont extrêmement présentes et pour moi c'est très important. C'est-à-dire que la famille, c'est vraiment le lieu où je me sens bien et où je reviens régulièrement. Moi, je passe beaucoup de temps avec mes frères, j'ai 2 frères, avec mes parents, même avec mes beaux-parents. Le cœur de la famille, c'est vraiment à la fois ce qui, moi, me ressource et ce qui, je le sais, chez la plupart des gens, est quand même fondamental dans la construction de son existence, parce que je pense que qu'on la subisse ou qu'on la choisisse, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on construit notre vie en rapport avec notre famille, soit contre notre famille, soit pour notre famille. Il y a toujours quand même le jugement, entre guillemets, de notre famille proche qui nous importe.
Pensez-vous qu'il existe des familles sans secrets ?
Non. Non, je pense que dans toutes les familles, il y a forcément des secrets. Je pense que c'est souhaitable d'une certaine façon, mais que par parfois les secrets peuvent s'ancrer de génération en génération et que notamment les non-dits en fait peuvent oui, se transmettre et provoquer chez parfois la génération suivante ou deux générations suivantes, trois générations suivantes, un mal-être hein, et au sein d'une famille qui fait qu'on se construit avec ce mal-être sans véritablement savoir pour quelle raison et parfois d'enfin savoir quelle est la cause de ce mal-être en mettant à jour, en mettant au jour, je ne sais plus comment on dit, bon. Parfois de cerner la cause de ce mal-être en découvrant l'origine, en découvrant son origine, en découvrant le secret de famille, ça peut aider à avancer et à se projeter dans le futur.
C'est l'un des sujets qui est au cœur de votre roman d'ailleurs.
Complètement.
Vraiment. Alors un tatouage bien précis joue un grand rôle dans votre histoire. On peut se dire que ce tatouage à différentes époques a été salvateur pour la famille de Gina. Alors je me suis demandé si vous, Julien Sandrel, vous étiez tatoué.
Alors pas du tout. Non, je ne suis pas du tout tatoué. Je ne suis pas contre les tatouages. Hein. Tout le monde fait comme il le sent et comme il le souhaite. Mais en fait, ouais, c'est cette histoire de tatouage, c'est quelque chose d'important. C'est une idée qui m'est venue quand j'ai découvert l'existence d'un certain nombre d'enfants volés en fait, en Italie à une certaine époque, donc à la fin du 19e siècle notamment, où il y avait notamment des orphelins qui étaient parfois entre guillemets volés par des entreprises pour les faire travailler dans les mines, etc. Et effectivement, il y avait certains parents qui vivaient dans la crainte, notamment des parents pauvres, quoi, qui vivaient dans la crainte que leur enfant soit volé, parce que c'était parfois des orphelins, mais parfois pas forcément. Il suffisait d'égarer son enfant dans la ville pour peut-être ne plus jamais le revoir. Et donc, cette peur de perdre un enfant, qui traverse aussi un certain nombre de mes écrits, là, je l'ai matérialisé avec donc, un homme qui décide de tatouer son enfant pour être certain de le reconnaître, parce qu'il sait qu'il va le devoir le confier pour pouvoir aller travailler, notamment dans les salins d'aigues mortes, à des personnes. Et il veut être certain qu'on n'essaye pas de lui subtiliser son enfant ou de le remplacer par un autre.
Comme je le disais dans la présentation de votre livre, vous aimez les rebondissements. Avez-vous votre histoire du début à la fin avant d'écrire ?
Alors, pas forcément. C'est vrai que j'aime les rebondissements. J'aime les rebondissements en tant que lecteur, en fait. C'est vrai que moi, j'aime bien les histoires qui sont vraiment romanesques, où il se passe des choses, où on n'a pas l'impression de connaître la fin quand on commence le roman. Donc, j'aime bien être surpris en tant que lecteur. Donc, j'essaye de surprendre aussi quand j'écris. Certains des rebondissements qui sont finalement inhérents à la psychologie des personnages, je les ai souvent dès le début. Donc, c'est le cas de certains des rebondissements de Merci, Gratia, Thank You. Et d'autres en fait arrivent en cours d'écriture. Généralement, avant de commencer à écrire, il faut que je sois extrêmement clair sur mes narrateurs, mes narratrices en l'occurrence, là, que je les connaisse très bien, que je connaisse très bien leur parcours, leur psychologie, ce qu'ils ont vécu, pour pouvoir me mettre dans leur tête et me dire, voilà, je suis face à cette situation, je suis Gina, je suis Chloé, avec tout ce qu'elle a vécu avant, comment est-ce que je réagis, et j'essaye de décrire tout ça. Et donc, il faut que j'ai ça, le point de départ, évidemment, de l'intrigue, et le point d'arrivée. Donc, généralement, j'ai la fin. Et les étapes intermédiaires, souvent, je les construis au fur et à mesure.
Alors, votre roman est aussi très drôle. Je pense à Olga et ses extravagances, à la façon de parler de Gina. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie, Julien Sandrel ? Et dans vos, et pourquoi pas dans vos lectures aussi, dites-nous.
Ah ben moi, je suis très client de comédie. Hein. Donc, moi, plein de choses me font rire. Plein d'humoristes me font rire. En humoriste, par exemple, j'aime beaucoup Florence Foresti. Ou dans la génération plus jeune encore, j'aime beaucoup Paul Mirabel, par exemple. Et après, ouais, moi, j'aime bien... En fait, je suis très éclectique dans mes goûts. J'aime bien lire ou aller voir au cinéma des drames, mais des vrais drames, des vraies comédies, des comédies dramatiques. Donc voilà, c'est ce que j'aime lire, voir. Et donc j'essaye de retranscrire ça aussi dans mes romans. Et pourquoi j'aime ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est juste la vie, quoi. Dans la vie, on rit, on pleure. Même quand on traverse un drame, et je connais personne qui traverse un drame pendant 6 mois ou 1 an sans avoir au moins un éclat de rire à un moment donné. Je pense que c'est inhérent à la condition humaine de ne pas se morfondre comme ça. Il y a forcément ce que j'appelle des éclairs de lumière ou à travers les nuages ou un peu de lumière qui est au bout du tunnel, quoi. Donc j'essaye effectivement de mettre un peu d'humour dans mes romans. Et souvent, ça passe par un personnage, en l'occurrence là, Olga, dans celui-ci, qui est un peu plus marrant que les autres, quoi.
Merci Julien Sandrel. Vous allez maintenant nous lire un extrait ?
Avec plaisir. Et puis, les yeux rougis et le dos meurtri d'être resté en position assise des heures durant, une idée se ferait un chemin dans les méandres de mon cerveau. Je la laisse m'envahir jusqu'à prendre toute la place, jusqu'à devenir une évidence. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, et je le pense profondément. Mais je suis également convaincu qu'il peut y contribuer. Et si cet argent servait à cela, à rendre la vie plus douce, à remercier toutes ces personnes qui, de près ou de loin, en une journée ou pendant des années, ont fait quelque chose qui a changé ma vie. Ces personnes auxquelles j'ai toujours voulu exprimer ma gratitude sans en avoir eu l'occasion ni la possibilité. Je crois qu'il n'y a pas pire regret à la fin d'une vie que de n'avoir pas su, pas pu dire merci. Alors, à la frêle liste de mes désirs futiles, je substitue une liste de noms. Vers 6h du matin, je considère ces noms jetés sur le papier, longuement. Je me dirige vers la fenêtre et regarde le soleil se lever sur le bâtiment voisin de cet immeuble HLM dans lequel je vis depuis 40 ans. À mesure que naît le jour, je sens monter en moi un sentiment étrange. La honte disparaît, mon souffle s'allège, les contours de mon projet se font plus nets et une joie invincible se niche dans mon cœur. Je vais retrouver chacune de ces personnes, ou bien leurs descendants pour ceux qui sont décédés, et offrir un chèque à chacun d'entre eux, tout en prononçant le mot le plus merveilleux qui soit. Merci. Je n'ai aucune foutue idée de la manière dont je vais retrouver tout ce petit monde, mais je m'en moque, car je sais que j'y arriverai.
Julien Sandrel, passons au questionnaire secret d'écriture. Votre mot préféré ?
Amour.
Celui que vous détestez ?
Je dirais meurtre, parce que je trouve ça terrible comme mot, et en plus avec des sonorités très agressives.
Votre endroit préféré au monde ?
Alors le sud de la France, d'où je suis originaire, et plus particulièrement la ville de Hyères.
Votre dernière lecture ?
Alors je suis en train de lire le roman d'Ami d'ailleurs, qui s'appelle Alabama 1963, de Ludovic Manchette et Christian Nimiec.
Votre prochaine lecture ?
Alors j'ai reçu pas mal de romans d'amis auteurs et autrices qui ont publié récemment. Donc je ne sais pas par lequel je vais commencer. Peut-être par le livre de Mélissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
En fait, moi j'écris tout le temps. Mais les moments que je préfère pour écrire, c'est quand même le matin, quand je suis tout seul à la maison et que je peux écrire vraiment en silence.
Pourquoi écrivez-vous ?
J'écris pour raconter des histoires. J'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires, j'ai toujours aimé être emporté par des histoires, et c'est ça que j'essaye de faire, voilà, d'emporter les lecteurs dans mes histoires.
Où écrivez-vous ?
J'écris essentiellement chez moi, mais ça, c'est avant que mes enfants reviennent de l'école. Et avant qu'ils reviennent de l'école, je m'en vais pour ne pas être perturbé. Et je vais généralement dans des cafés. Et là, j'écris en musique, généralement avec de la musique plutôt classique ou musique de film. Et je retravaille ce que j'ai fait le matin, en général.
Donc, j'allais vous demander si vous écoutez de la musique lorsque vous écrivez.
Oui, tout à fait. J'écoute de la musique, alors pas forcément quand je crée une scène, mais plutôt dans le retravail des scènes, j'écoute de la musique. Et par exemple, sur mon dernier roman qui est sorti, qui s'appelle Les Extraordinaires, j'ai beaucoup écouté l'album Love de Sofiane Pamart, donc un album de piano qui est vraiment très très efficace pour se laisser à la fois emporter par les émotions et en même temps être complètement dans le calme.
Luttez-vous contre la page blanche et si oui, comment ?
En fait, moi, j'ai plutôt un syndrome de page trop pleine et donc il faut plutôt que je trie dans les différentes idées que j'ai. Donc c'est plutôt ça, en fait, que je dois faire. J'ai pas vraiment de page blanche.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Je dirais contre une vision trop pessimiste du monde et du destin du monde.
Merci Julien Sandrel d'être venu à Secret d'écriture. Je rappelle le titre de votre roman, Merci, Grazie, Thank You, en poche, dans la collection Le Livre de Poche.
Merci beaucoup.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À très bientôt.